Bonjour, je suis Tristan Girardot, enseignant en histoire géo au Collège Rabelais de Poitiers.
Bonjour, Philippe Marie, professeur de PS au Collège Rabelais de Poitiers.
Bonjour, Marion Boulogne, stagiaire de Monsieur Girardot en histoire géo.
On est ici à la radio du LP2I pour présenter le projet qui met en lien une classe de 3e du collège, Rabelais, et une classe de 1ère option HGGSP de Monsieur Gauthier.
Le projet Olympisme a pour objectif d'offrir une initiation à la HGGSP aux élèves de 3e du collège à travers une analyse géopolitique des Jeux Olympiques.
Et ce projet permet aussi de faire découvrir le fonctionnement d'un lycée et de développer des compétences pédagogiques autrement.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Delta FM pour une émission radio sur les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, nous allons étudier les JO de 1956 qui se sont déroulés à Melbourne en Australie. J'ai avec moi trois intervenantes. Donc Maëva, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, moi je suis Maëva, je suis en 3e et je vais vous présenter la géopolitique.
Achaïma ?
Bonjour, je suis Achaïma, je suis en 3e et je vais vous présenter l'histoire.
Et pour finir, Elfie ?
Bonjour, je m'appelle Elfie, je suis en 3e et je vais vous présenter la science politique.
Le 6 décembre 1956, lors de la demi-finale de waterpolo, un joueur soviétique a donné un coup de tête à un de ses adversaires hongrois qui avait déjà marqué 2 buts. Les deux équipes ont fini le match en se battant et plusieurs joueurs ont été blessés dans la piscine au point que l'eau serait devenue rouge, d'où son surnom, le bain de sang de Melbourne. Cette bagarre nous permet de faire un parallèle entre les compétitions sportives et les événements géopolitiques des années 50. Je vais maintenant offrir la parole à ma collègue Maëva qui va nous parler de géopolitique.
Bonjour, tout d'abord je vais vous parler de la guerre froide puis du boycott. La guerre froide est une longue période qui va de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. C'est un conflit marqué par une rivalité et un affrontement sans pour autant mener à une guerre générale. Ce sont deux camps qui s'affrontent et qui sont chacun dirigés par une superpuissance. L'Ouest dirigé par les États-Unis et l'Est dirigé par la Russie. Trois pays ont boycotté les JO de Melbourne. Ce sont la Suisse, l'Espagne et les Pays-Bas. À cause de l'invasion soviétique de la Hongrie. Un boycott est une cessation volontaire de toute relation avec un individu, un groupe, un pays et refus des biens qu'il met en circulation. Le but d'un boycott est de refuser la consommation d'un produit, d'un événement culturel, désobéir aux injonctions sociales. Je vais passer la parole à ma collègue Elfie.
Bonjour. Les Jeux Olympiques de Melbourne en 1956 illustrent le rôle du sport comme outil de pouvoir et d'influence politique, notamment dans le contexte de la guerre froide. L'invasion soviétique de la Hongrie a entraîné un boycott partiel de certains pays, dont les États-Unis, dénonçant l'URSS. Les surpuissances utilisaient les performances sportives pour promouvoir leur idéologie capitalisme contre communisme. L'Australie, en tant que pays hôte, a dû naviguer entre les pressions des blocs de l'Est et de l'Ouest. Enfin, le sport a aussi mis en lumière les tensions raciales avec des implications politiques. La bagarre lors du match de waterpolo entre la Hongrie et l'Union soviétique aux Jeux olympiques de Melbourne en 1956 a été déclenchée par des tensions politiques liées à l'invasion soviétique de la Hongrie. Après la répression violente du soulèvement hongrois, les joueurs hongrois profondément affectés ont réagi avec colère lorsque un joueur soviétique a frappé un hongrois, ce qui a amené à une violente altercation. Le match est devenu un symbole des rivalités idéologiques et des émotions politiques de l'époque. Il y a eu 72 pays qui ont été représentés, il y a 29 pays qui ont fait leur apparition lors des Jeux Olympiques de 1956. Par exemple, l'Éthiopie, le Kenya, le Libéria. Je vais laisser maintenant la parole à Emma.
Merci Elfie pour cette intervention. Je vais offrir la parole à Achaïma qui va nous parler du contexte historique.
La crise de Suez en 1956 a influencé les Jeux Olympiques de Melbourne en provoquant des boycotts. Plusieurs pays arabes ont boycotté les Jeux en solidarité avec l'Égypte, tandis que le Royaume-Uni et la France impliquées dans les conflits ont vu leurs relations internationales tendues bien qu'ils aient envoyé des athlètes. Ces événements ont montré comment les tensions politiques mondiales pouvaient affecter la participation aux Jeux. Cette année-là, en Hongrie, il y a une révolution ou aussi appelée insurrection de Budapest. C'est une révolution populaire spontanée contre le régime communiste hongrois et ses politiques imposées par l'Union des républiques socialistes soviétiques qui durent de 23 octobre au 10 novembre 1956. En Égypte, à Alexandrie, le 26 juillet 1956, Nasser annonce la nationalisation de la compagnie du canal de Suez. Je vais passer la parole à Emma.
Alors, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Je souhaite rajouter quelques précisions géographiques pour encore mieux comprendre ces JO. Melbourne est la première ville de l'hémisphère sud à accueillir les JO, sauf l'équitation qui aura lieu en Suède, à Stockholm. C'est la première édition des Jeux à se dérouler hors d'Europe et d'Amérique du Nord. L'Australie recueillera les JO en 2000 à Sydney, puis pour les Jeux d'été à Brisbane en 2032. Pour finir, je souhaitais ajouter qu'il reste peu de bâtiments construits lors des JO de 1956. Il y a peu de traces qui le prouvent qu'ils s'y sont passés là-bas, mais c'est quand même le cas. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et bonne fin de journée.
Bonjour à tous, bienvenue sur notre station radio. Je vous présente Robin, Maxime, Léna et moi-même Kali et nous allons vous parler des Jeux Olympiques de 1968. Je passe la parole à Robin.
Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de la guerre froide, un affrontement idéologique majeur entre les États-Unis, défenseurs du capitalisme, et l'Union soviétique, porteuse du communisme. Cette période de 1947 à 1991 a été marquée par une tension constante, mais sans confrontation directe. Concernant Cuba, les relations avec les États-Unis se sont détériorées après la révolution de 1959 et avec l'alignement de l'île sur l'URSS. La crise des missiles en 1962 a failli déclencher une guerre nucléaire. Et que dire du Vietnam ? En 1968, l'offensive du Tet a intensifié les combats, plongeant encore plus profondément les États-Unis dans la guerre du Vietnam, opposant les forces américaines aux nord-vietnamiens. Une époque complexe et pleine de rebondissements. Je vais maintenant poser des questions à Maxime sur l'histoire. Qui était le président des USA et secrétaire général du PCUS en 1968 et depuis quand ?
En 1968, Lyndon B. Johnson est président des États-Unis depuis 1963. À l'Est, Léonid Brejnev est secrétaire général du Parti communiste soviétique depuis 1964. Cette année-là est marquée par des contestations mondiales.
Que s'est-il passé sur la place Tlatelolco de Mexico 10 jours avant l'ouverture des Jeux ?
Alors, 10 jours avant les Jeux Olympiques de Mexico, la place Tlatelolco devient le théâtre d'un massacre. L'armée tire sur des manifestants étudiants, faisant des centaines de victimes.
L'année 1968 est une année de fortes contestations dans le monde. Donnez trois exemples, dont trois continents différents.
Alors il y a en Europe, la France secouée par mai 68, en grève et revendication sociale. Aux États-Unis, l'assassinat de Martin Luther King Jr. choque le monde. Et en Tchécoslovaquie, le printemps de Prague est écrasé par l'intervention soviétique. En 1968, une année de bouleversement.
Avez-vous l'exemple de plusieurs athlètes ayant marqué les Jeux de 1968 ?
Alors oui, il y a Bob Beamon, record incroyable en saut en longueur de 8,90 m. Il y a aussi Dick Fosbury, introduction du Fosbury Flop, en saut en hauteur avec une médaille d'or avec 2,24 m. Et Tommy Smith et John Carlos, médaillés et gestes emblématiques pour les droits civiques sur le podium du 200 mètres. Alors maintenant, j'ai passé la parole à Kali qui va nous parler un peu de géographie. Dans quelle partie de la ville se déroulent les Jeux ?
Alors les Jeux Olympiques de 1968 sont principalement déroulés dans le quartier de Tlatelolco à Mexico, avec des événements organisés dans plusieurs installations comme le Stade Olympique Universitaire qui se trouve dans le campus de l'Université Nationale Autonome de Mexique appelé UNAMA et la Plaza de las Tres Culturas.
Merci. Reste-t-il des traces des aménagements réalisés ?
Alors oui, il reste plusieurs infrastructures construites dans les Jeux Olympiques de 1968, comme le Stade Olympique Universitaire qui est toujours utilisé pour des événements sportifs et culturels, mais aussi le Palais des Sports appelé Palacio de las Deportes qui est un lieu polyvalent pour les concerts et les compétitions. Et pour finir, le village olympique qui est construit pour accueillir les athlètes et qui a été transformé en logement résidentiel.
Merci. Et comment la géographie de Mexico, y compris son altitude élevée, a-t-elle influencé l'aménagement des sites olympiques et des résultats de certaines disciplines lors des Jeux olympiques de 1968 ?
Alors l'altitude élevée de Mexico, qui est situé à 2240 mètres au-dessus du niveau de la mer, a fortement influencé les performances sportives. Les athlètes ont eu des difficultés à cause du manque d'oxygène, notamment dans les épreuves de longue distance, comme le marathon. En revanche, les disciplines nécessitant des efforts explosifs sur une courte durée, comme le sprint ou le saut, ont vu des records établis grâce à la réduction de la résistance de l'air. Cependant, les organisateurs ont dû adapter les installations sportives et fournir des infrastructures modernes pour compenser l'altitude et accueillir les athlètes venant des régions de basse altitude. Et maintenant, nous allons parler de sciences politiques avec Léna. Combien de pays étaient représentés à ces Jeux ? Quels pays ont fait leur apparition ou réapparition ?
Il y a eu 112 pays représentés qui ont participé aux Jeux Olympiques de 1968. Comme nouveaux participants, il y a eu le Fidji, le Koweït, le Sénégal et le Paraguay qui ont fait leur début. Aussi, il y a eu la réapparition de l'Afrique du Sud qui a été exclue à cause de l'apartheid et Cuba qui a réintégré les Jeux.
Et qui sont les deux sportifs au point levé sur le podium des Jeux Olympiques de 1968 ?
Sur le podium des Jeux Olympiques de 1968, ce sont Tommy Smith et John Carlos, deux athlètes afro-américains. Lors de la remise des médailles pour le 200 mètres, ils ont levé un point ganté de noir en signe de protestation contre les discriminations raciales aux États-Unis.
Mais alors, quel est le sens de leur geste ?
Leur geste symbolisait la lutte pour les droits civiques et l'égalité raciale. Le gant noir représentait la force et l'unité des Noirs. Et leur posture, pieds nus, dénonçait la pauvreté et les injustices sociales.
Et comment le Comité international olympique a-t-il réagi face aux protestations des deux hommes ?
Le CIO a réagi sévèrement. Il a considéré leur geste comme une violation de la neutralité politique des Jeux olympiques. Sous la pression, les deux athlètes ont été exclus du village olympique et suspendus de l'équipe américaine.
Quelques jours plus tard, qu'ont fait les athlètes Lee Evans, Larry James et Ronald Freeman ?
Lors de la victoire au relais 4x400 mètres, ces trois athlètes américains ont également protesté en portant des bérets noirs sur le podium, un autre symbole des luttes pour les droits civiques.
Et quelles étaient les ambitions politiques du Mexique en tant que pays hôte des Jeux Olympiques de 1968 ?
Le Mexique souhaitait démontrer sa capacité à organiser un événement international majeur pour renforcer son image sur la scène mondiale. Ces Jeux étaient aussi un moyen de montrer la modernité et le progrès économique du pays. Cependant, cet objectif a été terni par les protestations étudiantes et la répression sanglante du massacre de Tlatelolco qui a révélé les tensions sociales et politiques du Mexique.
Merci de nous avoir écoutés et bonne journée.
Yo yo yo, bienvenue sur la chaîne Delta FM, c'est Jeanne. Nous sommes en direct du LP2I. Aujourd'hui, un grand sujet est posé sur la table, les JO de 1972 à Munich. Nous avons la chance d'avoir trois spécialistes avec nous. Camille, l'historienne hors pair.
Salut !
Margot, la géographe.
Coucou !
Et Louane, notre scientifique géopolitique.
Bonjour !
C'est parti !
Bonjour tout le monde, moi c'est Margot. Je vais dire les trucs les plus importants parce que les autres, ça sera les détails quoi. Déjà, les JO se sont passés à l'ouest de l'Allemagne, à Munich, du 26 août au 11 septembre.
Est-ce qu'il y reste des traces des aménagements qui ont été faits pour ces Jeux ?
Oui, il reste encore des traces, comme le parc olympique de Munich qui est toujours en place et qui est toujours en activité. Le village olympique, lui, a été modifié pour devenir une zone résidentielle ou commerciale.
Et la tour Olympia tourne ?
Cette haute tour de 290 mètres est toujours un point repère emblématique de la ville, mais cette construction et les autres ont eu quelques conséquences géographiques. Notamment le développement urbain, l'amélioration des transports, l'attractivité touristique, les installations sportives toujours utilisées et l'impact environnemental que les constructions ont eu.
Merci beaucoup pour ces informations essentielles. Camille, c'est à toi.
Bonjour à tous, donc c'est avec grand plaisir que je vais vous parler de ce sujet qui me tient à cœur. Tout d'abord, je vais vous parler de la composition de la CE. Est-ce que vous savez ce que c'est ou pas ?
Non.
Donc la CE, alias la Communauté Économique Européenne, n'est pas encore ce grand club VIP qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, elle ne compte que 6 membres fondateurs, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.
Merci. Et comment tu expliques la tension entre l'Israël et la Palestine ?
En réalité, le conflit israélo-palestinien est avant tout un conflit territorial entre les Palestiniens et les Juifs, qui revendiquent la même terre. En 1948, la création de l'État d'Israël a entraîné l'expulsion de 800 000 Palestiniens, ce qui a marqué le début du conflit. Les deux peuples se disputent toujours le contrôle du territoire.
Merci encore. Un peu plus si on s'endormait, mais t'inquiète pas, je rigole. C'était parfait. Heureusement que c'est à moi. Petit point géopolitique. Pendant la guerre froide, l'OTAN dirigée par les États-Unis et le pacte de Varsovie dirigé par l'URSS étaient deux alliances militaires opposées. L'OTAN comprenait des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Le pacte de Varsovie, formé en 1955, rassemblait des pays communistes dont l'URSS et la Pologne. Ces alliances symbolisaient la rivalité entre les superpuissances. En 1972, l'Union soviétique soutenait l'Égypte, la Syrie et l'Irak pour contrer l'influence des États-Unis et de leurs alliés au Moyen-Orient dans le cadre de la guerre froide. Et je vois que c'est ton tour, Louane. Alors, combien de pays ont été représentés à ces Jeux ?
Bonjour. Alors, il y a un grand nombre de pays qui étaient présents. Il y en avait exactement 161. Et l'Allemagne de l'Ouest a beaucoup aidé dans l'organisation de ces Jeux. Elle a aidé à effacer le souvenir de l'Allemagne nazie et du Japon impérialiste. Les deux pays ont fait preuve d'une grande reconnaissance.
Peux-tu maintenant nous expliquer ce qui s'est passé à la fin de ces JO ?
Le 5 septembre 1972, pendant les Jeux Olympiques de Munich, les terroristes qui étaient membres du groupe palestinien Septembre Noir ont pris en otage 11 athlètes israéliens après des négociations échouées. Tous les otages ont été tués et les terroristes fusillés lors de l'assaut. Cette tragédie a mené à des tensions internationales et à un renforcement du conflit israélo-palestinien et à des mesures de sécurité supplémentaires dans l'événement sportif.
Merci beaucoup pour ces précisions. Alors maintenant, on va faire le plus intéressant, c'est-à-dire le point sport. Ces Jeux comptaient plus de 7000 athlètes. C'est d'ailleurs l'URSS qui a remporté les Jeux avec 99 médailles, dont 50 en or. Ensuite, on va parler de notre star nommé Mark Spitz. Malheureusement, il commence mal les Jeux à cause d'un coup de froid. Il finit donc sous antibiotiques, mais notre héros enchaîne finalement plusieurs titres olympiques et records du monde. Je crois bien que c'est la fin de cette émission. Merci donc beaucoup à nos invités, à Margot.
Merci.
À Camille.
Non, merci à vous, au revoir.
Et à Louane.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Bonjour à tous en direct de Delta FM, je m'appelle Simon Faure, je suis en compagnie de trois compagnons, Maël Théry-Laurillard, Gauthier Vidot et Gabi Martineau. Maël, pouvez-vous vous présenter ainsi que Gauthier et Gabi s'il vous plaît?
Ok, donc moi je m'appelle Maël, je suis élève de 3e au collège François Rabelais et je vais me charger de la partie histoire.
Bonjour, je suis Gauthier Vidot, je suis en 3e 6 au collège François Rabelais et je vais travailler sur le côté géo.
Alors moi c'est Gabi et je vais traiter de la partie sciences politiques.
Très bien. Maël, est-ce que vous pourriez me donner la date de début et de fin exacte des JO de 1984, s'il vous plaît ?
Alors, les Jeux Olympiques d'été de Los Angeles 84 ont duré du 28 juillet au 12 août, soit exactement 15 jours.
Et vous Gauthier, dans quelle partie de la ville se déroulaient les Jeux ? Parce que je ne le sais pas, s'il vous plaît.
Ils se sont tenus à Los Angeles, grande métropole située dans le sud de la Californie, aux États-Unis, sur la côte ouest, en bordure de l'océan Pacifique.
Très bien. Et vous, Gabi, pouvez-vous me dire combien de pays étaient représentés à ces Jeux et quels pays ont fait leur apparition ou leur réapparition, justement ?
Alors, au total, 140 pays ont participé aux JO de 84 et 19 d'entre eux, ils ont fait leur première apparition, comme le Bangladesh, le Bhoutan et la Gambie.
Et Maël, qui était le président des États-Unis à ce moment-là, s'il vous plaît ?
Le président des États-Unis pendant les Jeux était Ronald Reagan. Il était président depuis 3 ans à ce moment-là, sa prise de pouvoir ayant eu lieu en 1980.
Gauthier, combien d'installations ont été créées pour les Jeux de 1984 ?
Très peu d'installations ont été construites. Beaucoup ont été rénovées, comme le Coliseum de Los Angeles, qui a été utilisé pour accueillir les Jeux, ou des universités comme UCLA, utilisées par exemple pour loger les athlètes.
Gabi, quelles pouvaient être les intentions politiques des USA dans l'organisation des JO de 1984 ?
Alors, les USA, ils ont voulu organiser ces JO chez eux pour montrer leur puissance économique à l'URSS au cours de la guerre froide.
Et Maël, que se passait-il en Afghanistan depuis 1979, s'il vous plaît ?
L'URSS envahissait l'Afghanistan dans le but de résister aux Mujahideen, les actuels talibans. Cette intervention soviétique a tué près de 2 millions d'Afghans et 14 000 soldats. Cette guerre s'étant terminée en 1989.
Gauthier, reste-t-il des traces d'aménagements réalisés à Los Angeles, s'il vous plaît ?
Oui, comme le Memorial Coliseum, utilisé pour des matchs de football actuels. Aussi, des infrastructures de transport comme des panneaux de signalisation ou des équipements de circulation. Ou le village olympique, ils sont devenus des résidences universitaires.
Et Gabi, est-ce que vous pouvez me dire si les résultats sportifs ont été utilisés ou non, s'il vous plaît?
Ces résultats sportifs, oui, ils ont été utilisés. Et ils ont été utilisés par les États-Unis d'abord pour prouver sa supériorité face à l'URSS. Cependant, ces résultats, en fait, ils ont été controversés parce que l'URSS a boycotté ces jeux. Et donc, du coup, elle n'était pas présente pour concurrencer les États-Unis. Et du coup, ça leur a vachement facilité la tâche.
Merci bien. Et Maëlle, que s'était-il politiquement passé pour les JO de 84, s'il vous plaît?
Pendant les Jeux olympiques de 1984, la principale préoccupation politique, c'était l'URSS et d'autres pays, principalement communistes, pardon, ce qui donna lieu au boycott d'une quinzaine de pays majoritairement communistes, dont l'URSS par vengeance pour le boycott américain qui a eu lieu pendant les Jeux de Moscou 4 ans plus tôt, en 1980.
Et Gabi, pouvez-vous me préciser quels pays ont orchestré et pourquoi un boycott aux Jeux de Los Angeles, s'il vous plaît?
C'est l'URSS qui a organisé un boycott contre ces JO et c'est à cause de la guerre froide. Sauf que malheureusement pour eux, ça n'a pas marché parce que ces JO, ils ont généré un profit de plus de 200 millions de dollars.
Je vais passer le droit des questions à Maëlle, Gabi et Gauthier parce que je vais devoir parler du sujet géopolitique des Jeux de 1984.
Donc on va commencer avec une première question. Simon, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la guerre froide?
Une guerre froide désigne une période de tension géopolitique qui oppose deux puissances, dont après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS et les États-Unis ainsi que leurs alliés respectifs. Cette période qui a duré approximativement de 1947 à 1991 se caractérise par un conflit politique contrairement à une guerre classique.
Pourquoi certains pays n'ont-ils pas participé aux Jeux olympiques de 1980 à Moscou? Et comment cela était-il lié aux alliances politiques de l'époque?
Car les JO de 1980 à Moscou ont été marqués par un boycott important de plusieurs pays, principalement en raison des tensions de l'époque liées à la guerre froide. La principale raison de ce boycott a été l'invasion de l'Afghanistan par l'Union russe en décembre 1979.
Simon, prenez un exemple de pays qui a boycotté et un exemple de pays qui n'a pas boycotté ces Jeux.
Les pays ayant boycotté les JO de 1984 sont l'URSS et leurs alliés, mais durant les Jeux de 1980 à Moscou, c'est les USA qui ont boycotté. Donc on pense que c'est cela qui a entraîné le boycott de l'URSS. Les JO de 1984, officiellement appelés Jeux de la 23e Olympiade de l'ère moderne, il y a exactement 140 pays qui étaient, comptant environ 6800 athlètes, 4800 hommes et 2000 femmes. L'équipe des États-Unis a dominé les Jeux avec un total de 174 médailles, dont 83 en or. Un record qui n'a été surpassé que par les Jeux Olympiques à Atlanta. Merci à Maël, Gauthier et Gabi de m'avoir assisté pour l'émission et merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour à tous, je m'appelle Lila et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Zeynep.
Salut.
Ninon.
Bonjour.
Iris.
Bonjour.
Et Awa.
Bonjour.
Et nous allons parler des Jeux Olympiques de 1992. Nous allons commencer par une partie histoire. Ninon, peux-tu me dire exactement quand ont commencé et terminé les Jeux Olympiques de 1992?
Les Jeux Olympiques de 1992 se sont déroulés à Barcelone. Ils ont commencé le 25 juillet 1992 et se sont terminés le 9 août 1992.
Iris, depuis quand l'Espagne fait partie de la CEE, plus précisément la Communauté économique européenne?
L'Espagne va entrer dans la Communauté économique européenne le 12 juin 1985.
Iris, quand est-ce que la Communauté économique européenne est devenue l'Union européenne?
La CEE deviendra l'Union européenne le 1er novembre 1993.
Ninon, qu'est-ce qui montre que ces JO de 1992 ont changé l'histoire des Jeux olympiques?
Les Jeux olympiques de Barcelone sont considérés comme un tournant dans l'histoire car ils tournent la page du franquisme. Effectivement, ils se déroulent 15 ans après la dictature de Franco
et visent à témoigner de la modernité espagnole tant dans les domaines artistiques, culturels et architecturaux.
Nous allons maintenant passer à une partie géographie. Zeynep, où se sont passés les Jeux Olympiques?
Alors, les Jeux Olympiques de 1992 se sont passés dans la partie nord-est de l'Espagne, à Barcelone, sur la colline de Montjuïc.
Et, Zeynep encore, quels monuments et bâtiments ont été construits?
En effet, pendant les Jeux Olympiques de 1992, on a rendu les zones urbaines plus vivantes et on a construit de nouvelles infrastructures et espaces pour le sport. La montagne de Montjuïc, elle est devenue le centre de l'événement, comme le Stade Olympique et le Palau Sant Jordi. Le Palau Sant Jordi, c'est un pavillon principal des Jeux Olympiques. Il accueille encore les compétitions de gymnastique artistique et de volley-ball. On a aussi détruit des usines et des bâtiments industriels. C'est ce qui a donné naissance à la ville de Poblenou, qui a reçu les athlètes pendant les JO de 1992. Une église a aussi été construite pour que les athlètes de toute religion puissent y aller. le musée Juan Antonio Samaranch a été bâti pour montrer des expositions aux athlètes.
Que peut-on dire de ces Jeux Olympiques ? Qu'ont-ils apporté ?
On peut dire que les JO de 1992 ont transformé Barcelone en rénovant ses infrastructures, ce qui a changé son image. Le littoral a été réaménagé avec des plages et un port. Les transports en commun se sont améliorés, comme le métro et l'aéroport. Ces projets ont aidé à faire avancer le tourisme, l'économie, mais aussi à renforcer l'identité culturelle de la ville, faisant de Barcelone un modèle de développement urbain durable.
Nous allons maintenant passer à une partie sciences politiques. Awa, combien de pays ont participé aux JO et lesquels ?
Alors, aux JO 92 à Barcelone, un bon nombre de pays venant du monde entier y ont participé. Exactement 169 nations y ont participé. Il y avait le Mali, la Guinée, le Brésil, le Panama, l'Argentine, le Japon et d'autres pays que je ne cite pas.
D'accord. Et est-ce qu'il y en a qui n'avaient jamais participé avant ?
Des pays ont fait une apparition ou une réapparition, comme l'Albanie qui apparaît après 20 ans d'absence. Dans des pays ayant obtenu leur indépendance pour leur apparition, comme la Slovénie, la Croatie, la Bosnie et la Namibie.
Bien, nous allons passer maintenant à la partie géopolitique. Lila, peux-tu nous expliquer pourquoi on dit que la guerre froide se termine entre 1988 et 1992 ?
On dit que cette période marque la fin de la guerre froide parce qu'à cette époque, le mur de Berlin est tombé et l'URSS s'est effondré. Les tensions entre l'Est et l'Ouest ont diminué et il y a eu des accords signés pour réduire les armes nucléaires.
Et Lila, quels événements ont marqué le monde pendant les JO ?
Déjà, c'était la première fois que l'Espagne a participé, a accueilli les Jeux Olympiques dans leur pays. L'équipe de l'URSS a pu participer parce que l'Union soviétique s'est effondrée l'année d'avant. Et en plus, c'est la première fois que le basketball a été introduit aux Jeux Olympiques.
C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés.